Il fait chaud à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Nous sommes samedi, la date positive du mois de février. Nous sommes le 8 février 2020. Vous écoutez Isanganiro, votre station préférée, amis fidèles, auditrices, auditeurs de cette station. Bienvenue à ce journal en français. En voici d'abord la charpente. La communauté sud-africaine doit dire être prête à envoyer des observateurs avant, pendant et après les élections de l'année en cours. Précision de Libéra Mpumukeko, le secrétaire général de cette communauté, vous l'entendrez dans ce journal. Et des cas de fraude s'observent dans certains secteurs de la protection et de la sécurité sociale. Les responsables de ces derniers, comme la Mutuelle et l'INSS, s'inquiètent. Un reportage à suivre tout de suite. À Changuzo, nord-est du Burundi, l'on parle des prix exorbitants des produits vivriers au marché du chef-lieu de cette province. L'administration est appelée à prendre les mesures qui s'imposent pour réguler ces prix. Vous aurez les détails dans ce journal. Mise en onde par François Akimana. Au micro, vous êtes avec Aimé Richard Nyonguru. Bonjour et bienvenue. Rebonjour, je le disais tantôt, l'East African Community s'engage à soutenir des élections libres, paisibles et transparentes. Ceci a été dit ce samedi par le secrétaire général de l'East African Community au cours d'un point de presse. Libéra Mpumukeko a en outre indiqué que l'EAC est prête à envoyer des observateurs avant, pendant et après les élections. Autre précision, c'est qu'il y a eu délégation de cette communauté qui est déjà au Burundi et qui s'est entretenue avec les partenaires à ces élections. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang.
La République du Burundi doit se rendre aux urnes en mai 2020 et la République unie de Tanzanie en octobre 2020. La République d'Ouganda tiendra ses élections en 2021 et les Républiques du Kenya et du Rwanda en 2022. L'article 124 instituant la communauté d'Afrique de l'Est reconnaît la nécessité de la paix et de la sécurité dans les États partenaires de l'Afrique de l'Est. Le même article décrit des approches de mise en œuvre de grande envergure afin d'avoir un environnement stable et sûr dans la région et vise à promouvoir le développement et la vie harmonieuse des populations d'Afrique de l'Est. Le traité charge la communauté de l'Afrique de l'Est d'observer le processus électoral dans le cadre des constitutions nationales des États partenaires. En outre, la bonne gouvernance est reconnue par le traité comme l'un des principes fondamentaux qui régissent la réalisation des objectifs de la communauté. C'est dans ce contexte que l'EAC a toujours déployé des missions d'observateurs électoraux dans tous les États partenaires qui ont subi des élections au fil des ans, conformément au principe de promotion de la gouvernance démocratique dans l'intégration de l'EAC. Les missions d'observation de l'EAC sont guidées par des instruments et des normes internationaux et régionaux sur la gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme et la liberté. Les normes minimales d'observation électorale de l'EAC sont stipulées dans les principes d'observation et d'évaluation électorale de l'EAC datant de 2012, qui fixent entre autres la portée des missions d'observation électorale. Le secrétariat de l'EAC se prépare donc à déployer une mission d'observation électorale avant les élections générales de mai 2020 en République du Burundi. Les missions d'observateurs électoraux observeront le processus électoral, offriront une évaluation équilibrée et éclairée, créeront la confiance du public, identifieront les défis, les faiblesses, les opportunités et les forces qui peuvent être exploitées dans les meilleures pratiques pour la région et faciliter l'apprentissage par les pairs, par les organes de gestion électorale en Afrique de l'Est.
Cette émission d'observation des élections renforcera la confiance du public dans le processus électoral, souligne Libéra Mpumukeko, secrétaire général de l'EAC. Encore une fois, suivez-le.
La mission d'observation électorale de l'EAC renforcera la confiance du public dans le processus électoral en encourageant les électeurs et les partis politiques à participer à un environnement libre, juste et concurrentiel, exempt d'intimidation et de violence. L'EAC déploie une mission d'observateur électoral à long terme pour consulter les organes de gestion électorale et les principales parties prenantes sur l'environnement dans lequel les élections sont organisées. La mission à long terme observera toutes les activités avant, pendant et après les élections. L'EAC déploie également une mission d'observation électorale de courte durée pour observer les élections le jour du scrutin. Les États partenaires de l'EAC désigneront les membres de la mission d'observation électorale conformément aux normes prescrites par l'EAC. La composition comprendra des représentants des États partenaires, des organes de gestion électorale, de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, du secrétariat de l'EAC, des ministères de l'EAC, des institutions nationales des droits de l'homme, organisations de la société civile et autres institutions concernées dans la région de l'EAC. Le déploiement de la mission se fera de manière transparente avec des efforts concertés pour couvrir le plus grand nombre possible des régions du pays. Une délégation du secrétariat de l'EAC s'est rendue à Bujumbura cette semaine pour tenir des réunions de consultation avec divers intervenants clés. L'objectif général de ces réunions était de consulter les intervenants et de préparer le terrain pour le déploiement de la mission d'observation électorale de l'EAC. Nos consultations ont comporté des rencontres avec la CENI, divers ministères ainsi que des partis politiques enregistrés au Burundi. Au cours de nos consultations, nous avons partagé des renseignements importants concernant les préparatifs en vue d'élections pacifiques et crédibles. Les domaines qui ont besoin de soutien ou d'amélioration ont été longuement discutés. Nous avons insisté sur la nécessité de respecter la Constitution et les lois du pays. Nous avons également souligné la nécessité d'un terrain de jeu équitable pour tous les intervenants. Nous apprécions les progrès réalisés par les différents intervenants en ce qui a trait à la préparation des élections. Et nous avons établi qu'il y a un environnement propice à des élections pacifiques. En tant que communauté de l'Afrique de l'Est, nous nous engageons à soutenir les élections crédibles, libres, justes et pacifiques.
Libéra Mfumuke Eko, secrétaire général de la communauté est-africaine au micro, dont notre consoeur Mireille Kanyangi. Après juste une courte pause, la page Société au rendez-vous.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Je vous l'avais annoncé dans les titres, des cas de fraude s'observent dans certains organismes de la protection et de la sécurité sociale. Certains responsables de l'INSS et de la Mutuelle de la fonction publique l'ont dit ce vendredi lors d'un atelier de concertation et d'échange des parties prenantes de la sécurité sociale au Burundi organisé par le secrétariat exécutif permanent de la Commission nationale de protection sociale. Ces responsables disent qu'ils sont en train de lutter contre cette fraude grâce à l'informatisation. Les détails avec notre confrère Ezekiel Ndikumwenayo.
Dans cet atelier organisé par le secrétariat permanent de la Commission nationale de la protection sociale, CPCNPS, Godefroy Ndouamungu, chargé de l'affiliation et l'immatriculation des travailleurs à l'INSS, dit qu'il s'observe parfois des cas de fraude.
Partant du côté de risque professionnel, il y a des gens qui réclament les accidents de travail sans qu'il y ait parfois les employeurs en sont complices. Le second cas de fraude consiste à ceux qui sont dans l'incapacité et qui bénéficient des produits pharmaceutiques de la part de l'INSS. Au lieu de les utiliser, plutôt ils sont vendus. L'autre fraude est de la part des gens qui s'attribuent la mort, leurs dossiers sont constitués du début à la fin. Pour profiter de la pension du survivant, alors que le passionné est encore en vie. Parfois, ceux de l'état civil sont complices. Aussi, des documents fraudulés s'observent à des gens qui se déguisent leur identité et s'approprient des enfants qui ne sont pas les leurs. Mais tous ces documents présentés sont ceux de l'ayant droit de la INSS.
L'autre genre de fraude s'observe au sein de la Mutuelle de la fonction publique, mais elle est en train d'être éradiquée grâce à l'informatisation, selon le conseiller chargé de la protection sociale.
On assistait à des cas de fraude en 2014, mais il y a ceux qui viennent récupérer des médicaments sans qu'ils soient malades. Dans ce cas, il y a complice des prescripteurs de médicaments. En cas douté, on réfère le patient chez notre médecin conseiller. C'est bien lui qui vérifie si la maladie et le médicament sont liés. Il y a une année, le ministre de tutelle a lancé le projet de l'informatisation. Nous attendons la réception provisoire. Dans ce cas, il y aura des cartes informatisées, ce qui facilitera la désélection des affiliés et des assurés, ainsi que la transmission électronique des données et des documents de façon à identifier l'assuré et le médecin qui cherchera à bénéficier doublement le médicament.
Ces cadres de 10 organisations chargées de la protection sociale appellent les administratifs et complices de couper court à cette mauvaise pratique.
Ezekiel Ndikumwe Nayo, il est stagiaire à la radio Isanganiro, cap sur Changuzo, au nord-est du Burundi. Grogne des consommateurs des produits vivriers au chef-lieu de la province Changuzo, qui parle des prix exorbitants des produits vivriers au marché du chef-lieu de la province. Il demande à l'administration de prendre des mesures qui s'imposent pour réguler les prix. L'administrateur AI de la commune Changuzo dit que la hausse des prix s'explique par la jeunesse qui ne veut pas cultiver et demande à cette dernière de s'atteler à l'agriculture. Raymond Moudène.
Parmi les causes de la diminution de la récolte des haricots en province de Changuzo, ce sont des fortes précipitations qui ont endommagé les haricots nés de la saison A. Melikia Denande, le directeur de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage dans cette province, dit que cette diminution est estimée à 10%, mais explique que pour le maïs, la récolte est estimée à 80%. Pour lui, la non-disponibilité de l'engrais a aussi perturbé la saison A. En effet, l'engrais est arrivé après que certains agriculteurs aient planté, mais il indique que pour la saison B, il n'y aura pas de retard dans l'addition de l'engrais. Ce dernier est donc, selon lui, disponible dans toutes les zones de la province de Changuzo et que l'agriculteur n'aura pas à s'inquiéter. Mais cette inquiétude persiste chez certains agriculteurs qui ont déjà payé de l'avance. Ces derniers demandent à ce que l'engrais soit distribué équitablement, en commençant par ceux qui ont payé l'avance, au lieu de le distribuer à n'importe qui donne de l'argent, comme cela s'est manifesté lors de la saison A. Pour mieux accroître la production des haricots à ce moment de forte précipitation, le directeur de l'agriculture de l'élevage à Changuzo demande aux agriculteurs de cultiver le haricot grimpant qui persiste à la pluie. Depuis Changuzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro.
Merci Moudende. Et l'archevêque catholique de Gitega demande aux instances habilitées de donner la qualification des massacres de 1972. L'archevêque Simon Hamwana interpelle à tout Burundi de comprendre que les tueries ne peuvent en aucun cas contribuer à un avenir meilleur. L'archevêque Namwana l'a dit dans son homélie lors de la messe célébrée au bord de la rivière Louvubu, commune Chombo de la province Karoo aussi, où la commission Vérité et Réconciliation a déterré les restes de plus de 600 personnes tuées pendant la crise de 1972. C'était ce vendredi en présence des représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités au Burundi. Écoutez-le au micro de notre confrère fidèle d'Antoine Sabiman.
Nous venons de voir les nôtres. C'est une confirmation qu'ils sont morts. Même si je ne suis pas habilité à qualifier ces tueries, levons-nous ensemble pour demander aux instances habilitées pour qu'elles donnent la qualification, soit de crime de masse ou tout simplement de génocide. Ceux qui tuaient les gens en 1972, ils arrêtaient tous les gens qui n'aimaient pas, les condamnaient à mort sans être jugés. Et ils étaient ciblés dans une ethnie particulière. Nous saluons le travail de la commission Vérité et Réconciliation. Il faut méditer sur cette appellation Vérité et Réconciliation. Nous attendons de cette commission la vérité au Burundi, et cette vérité nous rendra libres. Que cette vérité soulage nos cœurs après la mort des nôtres, tués à cause de l'iniquité et la brutalité de leurs frères. La malédiction sur le Burundi a suivi la crise de 1972, et nous sommes témoins. Aujourd'hui, il est urgent que nous étudions cette question de manque de fraternité pour la rétablir afin de rassembler tous les Burundais.
Monseigneur Simon Namwana, archevêque de Gitega, au micro de Fidèle d'Antoine Sabimana, mais aussi Lila Traduit. Page économie à présent, la Banque centrale devrait s'entretenir avec les changeurs de monnaie en vue de faire respecter les mesures prises au niveau de la réglementation du taux de change de devises en monnaie locale. Point de vue de l'économiste et professeur d'université, après que la Banque centrale ait pris la mesure de retirer l'agrément à toutes les maisons de change d'ici 15 février courant. Prosper Niyoboke fait savoir que la mesure de doter les banques commerciales du pouvoir de changer la monnaie exige que la banque centrale ait des réserves de devises suffisantes à mettre à la disposition des banques commerciales. Suivez à ce propos Prosper Niyoboke.
C'est normal que la banque cherche vraiment à amener ses acteurs à ce qu'ils puissent respecter ces mesures. Qui est arrêt ou qui est décision provisoire, je me dis, je pense que c'est provisoire, de demander à ces acteurs qui sont au niveau de ce marché de pouvoir d'abord attendre à ce que la banque puisse dorénavant travailler avec les banques centrales, donc plutôt les banques auxiliaires, les banques commerciales. Là, c'est une chose. La question serait de se poser, de savoir si ces banques vraiment auraient des devises, donc des réserves en devises assez suffisantes pour pouvoir assurer valablement ces opérations. Alors, une question là que je me pose, si c'est à mon avis, c'est vrai que comme ces banques commerciales considèrent des réserves de la banque centrale pour pouvoir assurer les transactions au quotidien, ça va, au niveau de ce qui sont des transactions qui sont faites donc avec la monnaie locale, ça peut aussi se faire avec les devises. Est-ce que ces banques disposent de ces devises? Est-ce que les banques ont avantage dorénavant de travailler avec la banque centrale? Autrement, donc si les réserves au niveau de la banque centrale, et que la banque puisse réguler, contrôler, suivre ces transactions eu égard à ces réserves qui sont constituées. Donc il y a un taux de refinancement, un niveau de conseiller de réserve qui doit être connu pour que la banque puisse vraiment aisément suivre les transactions qui sont faites par ces banques commerciales. Est-ce que dorénavant ces banques vont-elles être investies de d'autres fonctions parallèles du marché de change? On sait que les banques sont au niveau du marché bancaire. C'est à ce niveau qu'il faut se poser la question. Oui. Qui est des gens qui ont des comptes en devises ou qui cherchent à avoir des devises? C'est une bonne chose. Donc, j'ai un compte au niveau de la banque commerciale telle. J'y vais, je fais retrait. Autrement dit, j'ai mon compte en monnaie locale. Je vais à la banque pour chercher des devises, pouvoir procéder aux transactions aisément sans que je n'aie à faire recours à un marché. Donc, c'est une action salutaire. Alors, la question, c'est au niveau de l'applicabilité de ces décisions. Parce que tout ça nécessiterait vraiment qu'il y ait quand même assez de devises. Au niveau de la banque centrale, mais au niveau de ces banques commerciales qui travaillent donc étroitement avec la banque centrale.
Mais c'est sur le www.isanganiro.org.
Page internationale pour clôturer ce journal. La campagne pour les élections législatives et municipales camerounaises qui s'achève ce samedi 8 février 2020 n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme à Douala. De nouvelles arrivées de réfugiés ont été enregistrées ces derniers jours dans le quartier de Bonaberry à cause du conflit entre armées et séparatistes. L'armée a considérablement renforcé sa présence dans ces deux régions. Les séparatistes, eux, appellent les habitants à rester chez eux avant, pendant et après le scrutin sous peine de représailles. L'ONG Amnesty International a d'ailleurs dénoncé une flambée de violence à l'approche de ces élections. Depuis le début de l'année 2020, 258 personnes ont été infectées par le virus de Lassa dans 19 des 36 États que compte le Nigeria. Au moins 41 personnes sont mortes de cette fièvre hémorragique aiguë. Dans l'Ondo, l'une des provinces les plus touchées par cette nouvelle épidémie, le personnel soignant doit faire face à l'afflux de patients avec peu de moyens. Santé toujours, le gouvernement de Hong Kong a annoncé 3 cas pour tous les gens qui vont arriver de Chine à partir de ce vendredi 7 février 2020 à minuit. Pour ce qui est des résidents hongkongais, sans doute le plus grand nombre, ils vont être assignés à résidence, obligés donc de rester chez eux pendant 2 semaines en portant un masque et en vérifiant leur température tous les jours. Les membres de leur famille, en revanche, ne seront pas soumis à la quarantaine. Ainsi, à 13h15, au studio rouge de la radio Isanganiro, nous voici à terme de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana qui a assuré la mise en onde de l'autre côté de la vitrine. Et mes Richard Nyonghu, c'est moi qui vous ai présenté ce journal. Au plaisir de vous retrouver à 18h pour le point complet de la soirée. À la prochaine.
Revue de la presse.
Bonjour.
bonsoir selon votre zone d'écoute. Nous ouvrons cette revue hebdomadaire de la presse par le journal Iwachu qui, dans son éditorial, revient sur les exhumations controversées de la CVR.
La commission Vérité et Réconciliation a entamé depuis le 27 janvier des travaux d'exhumation des ossements humains des personnes tuées en 1972 au site de la Ruvubu. L'opération doit durer au moins 3 semaines, une activité à saluer. Toutefois, écrit Iwachu, l'opération est interprétée différemment et commence à provoquer de vives réactions et émotions dans l'opinion. En effet, poursuit-il, l'ouverture des fosses confronte les proches des victimes à des eaux, parfois un amoncellement d'eau, dont le cas des enterrements multiples, comme le cas du site de Ruvubu, qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'image de la personne disparue.
L'éditorialiste d'Iwachu rappelle que l'opération est en train de se dérouler à la veille des élections. Certains politiques se demandent si le moment est vraiment approprié. Cette activité soulève aussi une polémique quant à l'identification de ces fosses communes et l'identité des restes excavés. Certes, la CVR fait son travail, une tâche qui devrait par ailleurs être menée en 2001. Cependant, elle devrait prendre en considération toutes ces préoccupations, expliquer, tranquilliser, apaiser, faire un travail pédagogique et psychologique en amont. Sinon, il y a risque de créer des frustrations inutiles, de choquer les uns les autres, de susciter un malaise et une gêne à certaines familles de victimes, conclut Iwachu.
Le train sera-t-il à Gitega d'ici 8 à 10 ans, s'interroge le journal Burundi Echo.
Cette allusion est faite à la réunion tenue à Bujumbura le 30 janvier 2020 des ministres des Transports du Burundi, de la Tanzanie et de la République démocratique du Congo dans le cadre du développement du projet tripartite de chemin de fer Uvinza-Musongati-Gitega-Uvira-Kindu. Ce projet va répondre aux besoins socio-économiques des parties sur la trajectoire du chemin de fer, essentiellement des zones à forte potentialité minière ou agricole. La prochaine rencontre est projetée en mars prochain à Lubumbashi.
Selon toujours Burundi Echo, ce communiqué conjoint stipule que le Burundi accélère la mise en place d'un cadre légal et réglementaire du secteur ferroviaire. Cela vu que la Tanzanie et la RDC ont déjà des lois qui régissent le secteur ferroviaire. Bien évidemment, lorsque les tracés seront déterminés et les études achevées, il faudra soumettre les rapports aux chefs d'État respectifs pour obtenir des directives permettant au ministère des Finances d'étudier les modalités de mobilisation des fonds pour la mise en œuvre du projet.
Revue de la presse.
L'usage convenable des moustiquaires laisse à désirer selon les parties prenantes, écrit l'agence burundaise de presse.
À Karusi, écrit ABP, les effectifs des cas de paludisme restent impressionnants, dépassant ou florant 50% des consultations dans le district sanitaire de Buhiga, et cela quelques jours après la campagne nationale de distribution massive des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Le médecin provincial de Karusi, Dr Leonid Senzi Sabira, a souligné que si tout le monde s'y met, la prévention, le traitement et l'éradication du paludisme est possible.
Les conseillers scolaires ne sont pas tellement sollicités par les élèves, titre le journal La Voix de l'enseignant.
Dans le but d'assurer une éducation de qualité depuis la rentrée scolaire 2019-2020, le ministère de l'Éducation, de la Formation technique et professionnelle a instauré le service de counseling dans les écoles à cycle fondamental et postes fondamentaux de tout le pays. 2 enseignants par établissement devraient écouter les élèves ayant des problèmes particuliers dans leur vie scolaire.
Malgré des échecs observés, des conseillers scolaires disent ne pas être sollicités, soit parce que les élèves n'ont pas été sensibilisés ou certains conseillers ne sont pas à la hauteur de ce travail. Les élèves rencontrés dans certaines écoles de la mairie de Bujumbura affirment ne pas connaître ce service. Un élève contacté nous a dit qui ne voit pas l'efficacité de ce service, alors qu'un directeur trouve que si le service était bien assuré, les élèves en bénéficieraient beaucoup.
Net Presse écrit sur la satisfaction de l'Union européenne de la mise en place du processus électoral au Burundi.
par une déclaration publiée par l'Union européenne en accord avec les chefs de mission des États membres au Burundi en date du 31 janvier 2020, l'Union européenne trouve qu'en ce début de l'année, alors que plusieurs partis ont déjà désigné leurs candidats à l'élection présidentielle, l'Union européenne salue la mise en place progressive du processus électoral. L'Union européenne souhaite qu'il soit crédible, inclusif et paisible dans la transparence et le respect des libertés d'association et de presse.
Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par
Francine Ndiokubgayo
et Mireille Kanyange. Très bonne suite de nos programmes. À la prochaine.
Revue de la presse.